Parce que les oxalates sont passés totalement sous le radar de la médecine. Tous tes organes, la thyroïde, les seins, les reins bien sûr, la vessie est en bonne santé, 200 à 250 mg de ces fameux oxalates. Parce que 100 g d'épinards, t'es déjà 1000 g. Parce que les poisons, ils sont pas dans la viande, ils sont dans les végétaux.
Tous les dimanches, rejoignez l'aventure 1000% pour être 1% meilleur à chaque épisode. Écouter des podcasts, c'est bien, mais vivre un événement, c'est encore mieux. L'équipe de 1000% a eu le plaisir de participer à l'édition 2025 à Lyon du Sommet de l'Hypersanté. C'est l'événement référent sur la longévité, un lieu, mais aussi un moment exceptionnel pour rencontrer des gens inspirants et qui nous tirent vers le haut. L'opportunité de rencontrer des experts, des médecins, des chercheurs, des entrepreneurs dans le domaine de la longévité, mais aussi des passionnés comme vous et moi. C'est vraiment une expérience à 1000% autour d'un objectif commun, vivre mieux et plus longtemps. On se donne rendez-vous au sommet de l'hypersanté en 2026. On voudrait remercier notre partenaire Féroce. Saviez-vous que notre alimentation moderne est jusqu'à 4 fois moins nutritive que celle de nos ancêtres ? Pourtant, le foie de bœuf est l'un des aliments les plus riches de la planète. Seulement 7 grammes suffisent à couvrir une grande partie de nos besoins en vitamines et minéraux. Le problème, nous avons perdu l'habitude d'en consommer. C'est là que Féroce intervient avec son haché révolutionnaire, un mélange savoureux de 80% de viande de bœuf nourrie à l'herbe et 20% d'abats. Pas de compromis sur la qualité, chaque lot est testé en laboratoire pour garantir sa richesse en micronutriments et oméga 3, tout en restant exempt de polluants comme les métaux lourds ou pesticides. Ça régale. Dans le cadre de notre partenariat, la marque offre aux auditeurs 4 steaks 3 étoiles avec votre première commande de haché Féroce. Pour en profiter, il suffit de l'ajouter à votre panier et d'utiliser le code 1000% sur la page de paiement. Lien et code en description.
Allez, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans 1000% podcast où l'on parle santé, performance et nutrition. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui risque d'en dérouter plus d'un. Et si certains végétaux pouvaient en réalité nuire à votre santé. Les légumes, les légumineuses, les amandes, voire même le chocolat noir, tout ce qui paraît sain, contiennent parfois des composés qu'on appelle antinutriments. Faut-il s'inquiéter? Est-ce que c'est vraiment un problème de santé publique? Une exagération du discours anti-végétal? Comment les éviter? Donc, dans cet épisode, on va recevoir Marion Kaplan qui va nous parler de tout ça. Bonjour Marion, comment ça va?
Bonjour. Moi, ça va très très bien.
Est-ce que tu peux te... Je suis accompagnée bien sûr de...
Pour votre communauté, Marion Kaplan. Je suis dans ma 70e année, d'accord? Donc, j'ai du recul par rapport à l'alimentation, sans être le professeur machin, j'ai eu la chance d'être extrêmement fragile, d'accord? D'être née par césarienne, élevée au lait de vache, aux antibiotiques. On le sait qu'aujourd'hui, dans les, vous essayez de 1000%, ben dans les 1000 premiers jours, c'est là que tout se fait. Et que c'est dans ces 1000 premiers jours, t'as pris des antibiotiques, t'as été élevée au lait maternisé, t'as reçu des problèmes affectifs avec des séparations, etc. T'as le cocktail Molotov pour être en mauvaise santé toute ta vie. Et c'est pour ça que, à l'adolescence, je me suis mise en chemin. Et de ce long chemin ont découlé plus d'une vingtaine d'ouvrages. Le dernier, il s'appelle Symbiotique. Mais je suis en train d'en écrire un autre qui sortira en avril ou mai chez Thierry Soucard, qui va s'appeler Kétobiotique. Parce que vous, les jeunes, si vous m'écoutez, parce que je crois que votre communauté est assez jeune, vous allez voir qu'en vieillissant, eh bien, notre métabolisme change. Et à la ménopause, donc la ménopause pour les femmes, ça dépend des âges, c'est à la cinquantaine, on va dire. L'andropause pour les hommes, parce qu'elle existe aussi, il y a un bouleversement hormonal qui va se faire. Et nous devenons physiologiquement résistants à l'insuline. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument envisager. Toute la problématique aujourd'hui, c'est que cette résistance à l'insuline, elle touche de plus en plus tôt les jeunes, de plus en plus tôt, du fait de notre mode de vie extrêmement délétère. Mais ça, on va en parler après. Et donc, j'ai été élève du docteur Kousmine, j'ai fait de la médecine fonctionnelle et nutritionnelle avec Castronovo, j'ai fait de la PNL, j'ai fait de la médecine énergétique, j'ai organisé des congrès, j'ai mis au point un cuvapeur qui s'appelle le Vitaliseur, qui a fêté ses 40 ans aujourd'hui en 2025, et qui est pour moi l'outil de cuisson que j'emmènerai sur une île déserte, parce que si je devais amener qu'un outil, ce serait celui-là. pour préserver les nutriments, justement. Donc voilà, ça c'est un long parcours qui n'a pas fini. Je serai toujours l'éternelle étudiante. Et je pense avoir la souplesse, la flexibilité d'apprendre à me remettre en question. Et d'apprendre que, en cheminant, il y a des choses sur lesquelles je me suis fait embarquer et j'ai eu tort. C'est-à-dire qu'à l'âge de 15 ans, j'ai été végane pendant 3 ans, ce qui m'a beaucoup altérée puisque j'avais 8-5 de tension, les dents qui sont commencées à se déchausser, de vrais brouillard mental. Ma mère m'a dit « Bon, maintenant, t'arrêtes tes conneries, hein, tu vas remanger comme avant. » Et manger comme avant, c'était manger n'importe quoi. Et en mangeant n'importe quoi, j'ai pris du poids, j'avais des boutons, j'avais des migraines, des problèmes intestinaux. Enfin, donc, ce chemin a été un chemin d'expérience, de régime en tout genre, de dogme, de religion alimentaire. Donc, croyez-moi, vous qui m'écoutez, peut-être vous faites-vous avoir aussi par ces religions alimentaires. Et je suis là un petit peu pour remettre l'église au centre du village et vous amener à travers ma chaîne YouTube Marion Kaplan et mon compte Instagram, Marion Kaplan toujours, de vous amener des grands cycles métaboliques. Et je propose des réflexions sur des sujets. Donc, effectivement, le sujet dont tu veux me faire parler, c'est celui-là. Donc, ça n'est pas moi qui parle, mais c'est moi qui expérimente. Et c'est les derniers travaux de Sally Norton, qui est une Américaine spécialiste en nutrition. Je te cite pas les grandes écoles qu'elle a faites. C'est une star aux États-Unis. En France, personne ne la connaît. Et il se trouve que, en plongeant dans ce livre, au départ, il m'a fait peur, hein. Je le dis comme tout le monde, hein. Oh là là, les conneries que j'ai racontées avant, mon Dieu. Donc, je me suis dit, allez, on y va. J'expérimente, je vérifie, je regarde, j'étudie, je l'appelle, on s'appelle. Et elle m'a dit, Marion, c'est génial ce que vous faites, vous êtes ma correspondante en France. Et c'est pour ça que je suis allée chez Beurre FM, la Petite Provision, je suis allée chez Fabrice Midal, des podcasts comme le vôtre, ben j'y vais parce que il y a une vraie parole à échanger parce que ces histoires de cet antinutriment, Toxic Veggies, ça a un nom anglais alors que finalement ça s'appelait Toxic Superfood en américain et elle explique que c'est la face cachée des super aliments. Parce que qu'est-ce qu'on appelle super aliments? Les amandes, les épinards, le chocolat, le sarrasin, le quinoa, les patates douces. Tout ça, on nous dit, ouah, c'est génial, l'index glycémique est bas, tu prends du chocolat à 90 ou 100% et c'est le top, c'est bourré de polyphénols, les épinards, il y a des polyphénols, des vitamines, il y a même de la B9, mais que c'est génial. Et puis, il y a l'envers du décor. Il se trouve que, tu sais, les végétaux étaient là bien avant nous. Nous arrivons beaucoup plus tard sur la planète. Et tu sais que les végétaux, ils sont comme toi et moi. Ils veulent pas qu'on les mange. Ils veulent faire des bébés et ils veulent survivre. Donc, tant que l'être humain n'était pas là, eh bien, ces végétaux ont cru sur toute la planète, même s'il y avait plein d'eau, la végétation du Costa Rica, que je connais très bien, ou de l'Amazonie, tu as une biodiversité extraordinaire, où les aliments des uns et les déchets des uns font les aliments des autres. Et il y a tout cet écosystème extraordinaire qui, si tu ne mets pas la main de l'homme, tout fonctionne vachement bien. Les bêtes carnivores, parce qu'au Costa Rica, tu as des pumas, tu as plein de bêtes carnivores, tu as des singes, tu as plein de trucs. Des fourmis, j'ai jamais vu autant de variétés de fourmis. Incroyable, des fourmis qui sont là dans les arbres pour les protéger de certains insectes. Et si tu te fais piquer par des fourmis, mais c'est une bombe nucléaire qu'elle t'envoie. Tu as une décharge de 220 volts, vraiment. Donc, il y a cet écosystème où même les arbres sont protégés par des insectes. Certains insectes vont nourrir certains oiseaux. C'est génial, la biodiversité et la forêt tropicale. Alors, cette forêt tropicale, normalement, on l'a dans notre intestin, on l'avait. Et donc, nous, les grands prédateurs de la planète, on s'est dit, on est les meilleurs, on a tout compris et on va maîtriser cette putain de nature. Eh ben, on l'a rien maîtrisé, on est en train de tout détruire et cette forêt tropicale que nous devions avoir dans notre intestin, qu'on appelle le microbiote, ou l'holobiote hein, plutôt, eh bien, il est dévasté. Et aujourd'hui, on a perdu des continents de bactéries. Et il se trouve que, ouais, il se
Merci
trouve
Marion.
Juste des millions de bactéries. Parce que moi, je dis tout de suite, je te fais des liens pour que tu
comprennes. Ouais, bien sûr, mais juste, je me permets de t'interrompre, Marion, parce que je pensais pas que ça allait durer autant de temps la présentation, mais je suis aussi accompagné de Vincent de la team 1000% qui est là, je l'ai pas présenté. Donc c'est pour ça, je voulais juste passer un petit coucou à Vincent et poser la première question de Vincent. Je pense qu'il a ouais, pas mal non, de questions moi, avec cette première partie.
Je suis pas originaire de la forêt tropicale du Costa Rica, mais de hier les palmiers, donc c'est aussi très fertile.
C'est hier.
Eh oui, on a parlé déjà. Je connais du monde autour de toi. Mais ce que je voulais dire, c'est notre santé. Est-ce que c'est pas le problème? Là, on parlait de notre microbiote qui est mis à mal. Est-ce que le problème, c'est les antinutriments que tu pourrais définir? Ou est-ce que c'est notre propre santé et notre diversité microbienne?
Je ne peux rien séparer. Comme dirait Hippocrate et Castronovo à la reprise, toute maladie commence dans l'intestin. Puisque nos 22-23 000 gènes sont en correspondance avec des millions de gènes à la fois dans notre microbiote, mais aussi dans nos mitochondries qui sont également des bactéries, tout ce petit monde discute, se téléphone et se met ensemble avec le quorum sensing. Donc il y a un vrai discours, il y a une vraie symbiose entre ces microbiotes qu'on a dans l'intestin, dans la bouche, dans la peau, dans les yeux, dans le nez, partout. Si il est de bonne qualité, entretenu avec une alimentation qui va nourrir ton microbiote, d'accord? Or, le problème d'aujourd'hui, mais c'est pas qu'aujourd'hui, ça fait 200 ans que ça se dégrade, on va même dire 12 000 ans, mais ça se dégrade vraiment depuis la Deuxième Guerre mondiale. Parce que depuis la Deuxième Guerre mondiale, on a invité dans notre ventre, dans notre microbiote, des bactéricides. Tout ce qui est pesticides, tout ce qui est herbicides et compagnie, tu crois pas que ça tue non seulement des insectes, mais ça tue tes propres bactéries dans ton intestin. Ce qui démontre que on va avoir un microbiote extrêmement appauvri. Et si tu as un bon microbiote, tu es capable de neutraliser un certain nombre de toxiques végétaux, parce que les poisons, ils sont pas dans la viande, ils sont dans les végétaux. Tu as des amanites phalloïdes, mais aussi tu as des antinutriments que certaines plantes, pas toutes les plantes, heureusement, il reste 70% des plantes que nous pouvons manger sans altérer notre microbiote et sans qu'elles nous fassent mal. Mais ces antinutriments, les plantes les ont fabriqués, les ont développés pour pas se faire bouffer. Parce que si tu bouffes toute un arbre, un acacia, il ne pourra pas faire de bébé, il n'y aura plus d'acacia sur la planète. Donc, il faut bien qu'ils rendent malades certaines gazelles, des gnous, je ne sais plus comment ils s'appellent, qui vont manger les acacias, qu'elles balancent les antinutriments qui vont leur foutre la chiasse pour continuer à avoir le temps de faire des bébés. Tu comprends?
Justement, on peut peut-être rentrer dans le détail. Tu parles beaucoup des oxalates. On parlera après des autres justement légumes qui peuvent poser problème. Est-ce que tu pourrais nous développer un petit peu les oxalates, comprendre ce que c'est et quels impacts aussi ils ont sur la santé, notamment au niveau des minéraux?
Alors, les oxalates se protègent même eux-mêmes, entre guillemets. Dans certaines plantes, comme les épinards, comme l'oseille, comme la rhubarbe, mais aussi comme les céréales, avec ou sans gluten, celles sans gluten en contiennent d'ailleurs plus que celles sans gluten, que celles avec gluten. Ces oxalates, c'est de l'acide oxalique et les oxalates qui se combinent à des minéraux. Et pourquoi crois-tu qu'il y ait autant de gens déminéralisés? C'est parce que on nous a fait croire que boire des jus verts, d'accord, manger des smoothies verts, c'est ça qui fout le bordel. Ce sont ces religions alimentaires. Si tu manges des épinards de temps en temps, c'est pas grave. Mais si tu en fais un mode de vie, et tout le problème aujourd'hui, c'est les modes de vie qui ont été d'ailleurs encouragés par des naturopathes ou des gens qui connaissent que dalle, qui se sont eux-mêmes, entre guillemets, sauvés de sida, tu les connais, ou de problèmes machin, et qui vont te faire boire des smoothies verts, on rigole pas, c'est la réalité. Et d'ailleurs, en général, ils ont des dentiers, ils ont plus de dents. Mais ces gens-là nous ont encouragés à nous végétaliser tellement avec des aliments hyper verts comme les feuilles de blette, comme les céleris, les branches. Le céleri rave, ça va, mais les branches, non. Les épinards, tout ça, vas-y que je te mets un coup de lait d'amande. Et pourquoi pas des pommes pas mûres, parce que la pomme mûre, ça va, mais la pomme pas mûre, ça va pas. L'avocat pas mûr pour édoxalate, l'avocat mûr, ça va. Donc, tous ces antinutriments, tous ces légumes très riches en antinutriments, mais considérés comme verts, si tu en prends trop, ce qui a été le cas de Sally Norton. Sally Norton qui a écrit Toxic Veggies, que j'encourage les gens, je touche rien sur les bouquins, mais j'encourage tout le monde à lire ce livre, parce que pour moi, il y a un avant et un après. Parce que les oxalates sont passés totalement sous le radar de la médecine. Il n'y a que les néphrologues, c'est-à-dire quand c'est déjà trop tard pour toi, parce que tu fais déjà des coliques néphrétiques, qu'on tient compte, ou que tu es en insuffisance rénale, comme beaucoup de diabétiques, qui tiennent compte de ces fameux oxalates, qui sont des micro-cristaux, d'accord ? C'est comme si je cassais un verre, et je le pile, et j'ai des micro-cristaux très tranchants qui vont s'amalgamer avec du sucre glace, et ça colle. Et ça colle où ? Sur tous tes organes, la thyroïde, les seins, les reins, bien sûr, la vessie, tous tes organes y passent, mais pas tout de suite. Ça peut mettre des années. Et selon ton microbiote, parce que si tu as des bonnes bactéries intestinales, que tu as certaines familles comme Oxalobacter formigenes, plus des bifidums, plus des acidophilus, etc., toute une caravane de bactéries qui peuvent te neutraliser à peu près, si tu es en bonne santé, 200 à 250 mg de ces fameux oxalates. Et c'est vite passé, hein, parce que 100 grammes d'épinards, tu es déjà 1000 grammes. Hein. 100 grammes, pas beaucoup. Hein. Donc, quand tu as compris que si tu penses manger bien en te faisant tes salades d'épinards, en mangeant des patates douces, en mangeant du chocolat noir, en mangeant tout ça tous les jours, peut-être deux fois par jour, plus du pain sans gluten, plus un gâteau aux amandes, très riche en oxalates, que tu manges à ton apéro des noix de cajou ou des cacahuètes, très riche en oxalates. Waouh, ça va vite, hein ? T'as vite passé les 250 mg. Ça, c'est quand tu es en bonne santé. Mais quand tu commences à avoir des problèmes, des cystites à répétition, des problèmes hormonaux, de l'endométriose, des syndromes des ovaires polykystiques, des cristaux dans les seins, parce que ça se met dans les seins, et on a complètement occulté cette histoire d'oxalate. Et elle a fouillé, je peux te dire que tu as 1 cm d'analyse, d'étude là-dessus. PubMed, Nature, tout ça, c'est publié, qu'on ne me dise pas que c'est la nouvelle phobie d'aujourd'hui. Non, c'est quelque chose dont on doit tenir compte. Et le problème, il y a des gens qui vont aller faire leurs analyses au labo pour voir s'il y a de l'acide oxalique dans leur urine. Mais tu vas en dégager une partie, mais il y en a plein d'autres parties qui restent dans tes tissus. Tu sais que l'homme du paléolithique, à l'époque, il mangeait pas tous les jours. T'es d'accord ? Si tu regardes bien Jean-Jacques Hublin, tous les paléoanthropologues, ils ont bien observé toutes les habitudes alimentaires de notre homo qui est devenu sapiens sapiens. Eh bien, il y a l'hiver, par exemple, ben, si tu n'as pas de gibier, quand tu reviens de la chasse, tu n'as que dalle à manger. Donc, tu jeûnes. Tu n'as plus rien à manger. Hein, tu jeûnes par obligation parce que tu n'as rien à bouffer. Le lendemain, tu vas repartir, tu espères tomber sur un oiseau ou tu n'auras même pas d'œufs parce que ce n'est pas le moment de la ponte. Tu vas gratter, tu vas peut-être trouver des petits champignons, des petits tubercules. Bref, tu ne manges pas à ta faim. D'accord ? Et quand tu tombes sur une bestiole, tu vas manger son foie, tu vas gratter les os pour avoir la moelle. N'oublie pas, si je te mets dans une forêt de paléolithique, je te dis démerde-toi, je te donne un couteau et puis tu te débrouilles, mais tu crèves aujourd'hui parce que tu sais pas quoi faire. Et en plus, il y a tellement un appauvrissement de la biodiversité, tu n'auras même peut-être pas de gibier. Donc, tu ne survivrais pas. En végétaux, tu ne survivrais pas. Donc, il faut arriver à se remettre dans ce contexte où l'homme du paléolithique, il était en flexibilité métabolique, c'est-à-dire quand il avait des glucides, des fruits, des tubercules, des choses comme ça qu'il pouvait trouver, eh bien, c'était que du bonheur. Et si en plus il avait la chance de pouvoir prendre du gras, le gras pouvait lui sauver la vie pendant les périodes où il n'avait rien à manger. Parce que la graisse, lui sauve la vie. C'est pour ça qu'on a un système qui n'a pas changé depuis l'homme du paléolithique. On prend du gras, pareil. D'accord ? Tout le problème, c'est qu'on a changé de civilisation. Et que ce gras qui nous sauvait la vie, aujourd'hui, on en prend trop et on n'arrive pas à s'en débarrasser à moins de faire toute une réforme alimentaire. Tu comprends ? Et ces oxalates, parce que je reviens aux oxalates, ils ne demandent qu'une chose, c'est de s'éliminer de ton organisme. Donc, quand tu as pris des épinards, des framboises, des amandes, etc., que tu t'es bourré d'oxalates qui se sont mis sur certains organes, si tu n'en manges plus d'un coup, ça peut être dangereux. Parce que tout d'un coup, elle appelle ça le dumping oxalique. Et tout d'un coup, il va y avoir trop d'oxalates qui vont se libérer. Et là, tu peux te retrouver aux urgences à faire des coliques néphrétiques, ou tu peux avoir une crise articulaire, ou tout d'un coup partir en thyroïdite d'Hashimoto. Donc, faut y aller doucement.
On en parlera après justement pour comment, entre guillemets, détoxifier son corps. Vincent, je crois que tu avais une question, si tu veux rebondir.
Non, mais c'est juste pour rebondir sur ce que tu dis, Marion. C'est en fait, on a besoin de bon sens. Hein. Les modes alimentaires, elles font beaucoup de dégâts. Moi, ma question, c'est globalement tous les légumes à feuilles vertes, les tubercules, les oléagineux, les céréales complètes. Ça nous amène quand même, c'est très riche en densité nutritionnelle. Donc, on nous pousse. J'ai l'impression qu'il y a une logique derrière tout ça. Je comprends qu'il y ait derrière des antinutriments. Comment gérer à la fois la recherche de densité nutritionnelle par ces aliments et en même temps l'exposition aux oxalates et aux antinutriments.
Vincent, ce qui est génial, tu vois, j'ai fait toute une liste des aliments que tu peux bouffer, d'accord ?
Donc, allez, vas-y, dis-nous tout ça, Marion.
Tu peux manger.
Donne-nous la liste.
T'as tous les choux, les oignons, les radis, le céleri rave, les pommes de terre nouvelles à chair rouge, elles contiennent beaucoup moins d'oxalates. Les cœurs d'artichaut, les asperges, les brocolis, les choux de Bruxelles, le céleri rave, j'ai dit, le fenouil, le navet, la chayotte, le butternut, les feuilles, ouais, non, ça, le konjac, donc ça c'est autre chose, et en fruits, les bananes, les cerises, attends. Les bananes, les cerises, les mangues, le melon, les olives, la papaye, les poires, l'ananas, la mirabelle, les fraises, attention, fraises framboises, c'est dingue, hein. Elles ont un index glycémique bas, mais elles sont riches en oxalates. Elles ont, par exemple, pour 85 grammes, tu as 24 pour les fraises de 24 milligrammes d'oxalates. Donc, si tu prends un bol de fraises, ça va déjà faire 200 grammes. Donc, tu vas déjà être à presque 50, tu vois. Et les gens qui sont fragiles, ils peuvent pas supporter plus de 70 par jour, tu vois. Les gens fragiles. Il y a plein de gens fragiles. Par exemple, alors ça a été très à la mode, les gens qui ont fait des bypass. Ceux-là, ils absorbent l'oxalate à fond la caisse. Et qu'est-ce que ça fait dans l'organisme, l'oxalate? Ça te chélate les sels minéraux. Ton magnésium, ton fer, ton zinc, ton potassium, ça les prend, ça les chélate. Regarde le nombre de femmes qui manquent de fer, qui manquent de magnésium, qui sont en spasmophilie. Elles ne se rendent pas compte parce que elles veulent pas grossir, donc elles mangent des fraises plutôt que de l'ananas, parce que l'ananas est très riche en sucre, etc. Tu vois, tu peux manger plein de choses, hein, mais il va falloir choisir tes légumes. Choisir tes fruits et en fonction de ton index glycémique, parce que il y a des gens qui sont plus susceptibles aux glucides que les autres, surtout en vieillissant, puisque je disais tout à l'heure que tu deviens résistant à l'insuline en vieillissant, donc on va devoir choisir aussi nos sources de glucides.
Et excuse-moi de te couper,
et
Marion,
un point dans les aliments.
Désolé, juste tu disais que t'avais déjà, en lisant ce livre, regardé ta pratique, que finalement, t'avais suivi toi aussi des modes. Est-ce que c'est pas aussi une mode de se focaliser sur les oxalates? Parce que faut regarder l'indice glycémique, faut regarder la densité nutritionnelle, regarder les antinutriments. Enfin, tu vois, on se rend fou. Est-ce que toi aussi, t'es pas en train de suivre une nouvelle mode, tu vois?
Non, non, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'on pourrait se dire ça. Mais c'est pas un focus. C'est que c'est passé, alors que ça fait 120 ans qu'on le sait, hein. C'est passé sous les radars de la médecine. Même toi qui as fait Castronovo, il n'en parle pas. On parle légèrement des lectines, parce que Gundry, il y a 15 ans déjà, a parlé des lectines avec son paradoxe des plantes. Ça a été le premier quand même. Et j'étais la première à en parler en France, d'accord? Donc, on parle des lectines, Parce que regarde, tous les gens, si tu consultes, ont l'intestin défoncé. D'accord? Ils se retrouvent avec des dysbioses, des SIBO, des candidoses, des maladies de Crohn, des diverticules, des rectocolites hémorragiques. Mais le nombre de problèmes qu'on a digestifs, quand c'est pas du syndrome Nash, du foie gras, etc., que tu ne peux pas passer à côté de cette lecture qui est que, au lieu de manger varié, ce que nous devrions faire, les gens vont vers des exclusions alimentaires, vers un végétarisme outrancier, un véganisme outrancier, et vont se retrouver avec tellement d'antinutriments et rien pour la parade. Parce que les dernières études, là, il y a un livre qui va sortir de Dave Asprey et un autre qui est sorti là, il y a 10 jours, qui est la molécule de la longévité. La molécule de la longévité, c'est un acide gras saturé à chaîne impaire. On l'appelle le C15, l'acide pentadécanoïque. J'ai réussi à le retenir. Et cet acide gras, cette femme, elle est incroyable aussi. C'est pour ça, moi, je te dis, moi, je vous amène ce qu'il faut un petit peu avoir dans notre mémoire vive et de se dire, putain, si je mange mes smoothies d'épinards avec mon lait d'amande, peut-être que c'est mes crampes. D'ailleurs, j'ai un copain qui m'a dit, Marion, c'est incroyable, j'avais un champ d'épinards en bas de chez moi, j'en mangeais tous les jours parce que je me disais, bon, la B9, les flavonoïdes, c'est génial, ça fait pas de mal, la glycémie, etc. Il s'est retrouvé avec des crampes, il croyait que c'était son café. En m'écoutant sur l'histoire des oxalates, il a arrêté les épinards, évidemment. Il me dit, Marion, en même pas une semaine, j'ai plus mal au ventre. J'ai une vieille dame, 82 ans, elle avait mal au dos. Elle a arrêté 15 jours les oxalates en essayant d'éviter le dumping. Elle a plus mal au dos. Et des centaines comme ça de gens. J'ai même mis sur ma story sur Instagram une dame que j'ai croisée lors d'une conférence. Elle devait avoir 70 ans, un truc comme ça. Et elle me dit, Marion, merci. Que j'ai dit, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'elle avait son jardin et tout ça. Elle se bourrait d'oxalates comme tout le monde. On bouffe plein d'amandes, noix de cajou, parce que c'est facile pour faire des pâtes crues, machin. Tout ça, c'est ces modes qui n'existaient pas à l'époque. À l'époque, on faisait des pot-au-feu, des poules au pot, on mangeait de la viande, de la bonne viande, des bons œufs, du bon beurre, avec les légumes, avec la soupe aux choux, etc. Aujourd'hui, on veut nous végétaliser. Regarde le résultat.
Et justement, ta recommandation sur les amandes et le chocolat noir aussi, parce que t'en parles pas mal, qu'est-ce que tu conseilles justement à nos auditeurs qui peut-être ont adopté ces réflexes-là et ces habitudes?
Il faut pas que ça soit un réflexe. Les amandes, tu peux en manger. Mais regarde, attention de ne pas dépasser une dose, et pas tous les jours. Pas tous les jours. Le problème, c'est qu'on pousse notre caddie, on a tout à notre portée. L'homme du paléo, les amandes, c'était une saison. Hein. Point barre. Après, il n'y en avait plus. Les écureuils avaient tout bouffé. Donc, il faut être raisonnable. Le problème, c'est qu'on n'est pas raisonnable. On va dans des religions, des croyances. Regarde la pyramide alimentaire qui est complètement débile aujourd'hui. Elle est complètement remise en question par tous les Américains qui, eux, payent cher leurs conneries puisque sont tous obèses, malades, nages, diabétiques. Hein, quand c'est pas une maladie cardiovasculaire et des AVC. Ils ont le pompon de toutes les maladies, de toutes les bêtises, ils les ont faites. Ça, c'est la côte Est. Et la côte Ouest, ils ont compris. Et tous les chercheurs sont dans la côte ouest. Mais tous, et puis il n'y en a pas un qui se contredit. Ils sont tous d'accord. Il n'y a qu'en France qu'on n'est pas d'accord. Parce qu'on ne veut pas s'actualiser. On veut tellement avoir raison. Moi, je vous dis, écoutez, vérifiez, et vous me direz. Oh, elle dit les conneries, celle-là nous fait chier que ces oxalates. Vous pouvez très bien dire ça. Et puis, il y en a à qui je vais beaucoup rendre service. Donc, à ce moment-là, vous direz merci pour tout.
Désolé, j'insiste, mais pour le chocolat noir, parce que je sais que c'est une habitude maintenant qui est, enfin, on entend de partout, le 80% minimum, c'est bon pour la santé. Toi, c'est quoi? Qu'est-ce que tu pourrais dire justement à nos auditeurs vis-à-vis de ça?
Alors, t'as vu qu'il y a un scandale qui fait que dans tous les chocolats, t'as du cadmium, qui est un métal lourd, quand même neurotoxique, hein. Et quand c'est pas autre chose. Manger du chocolat en toute petite quantité, pas tous les jours.
Ça veut dire quoi? Je me fais un carreau une fois tous les 2-3 jours?
Si tu as une insuffisance rénale, que tu es diabétique ou que tu as des cailloux au rein, ce qui touche beaucoup de jeunes, on a 6 900 000 personnes qui ont des coliques néphrétiques tous les ans, hein, qui ont des problèmes rénaux, quand même. Ça fait du monde, près de 7 millions de personnes, tu trouves pas? Donc, Moi, je connais des gens, et mon compagnon d'ailleurs est sujet aux coliques néphrétiques, et moi, j'ignorais cette histoire d'oxalate. Moi, je lui donnais des, je faisais mes petits gâteaux aux amandes, mais vraiment sans le savoir. Et donc, maintenant, je prends des noix de macadamia, je les achète sur Internet par 2,5 kg, parce que sinon, c'est trop cher en magasin, et je change complètement ma façon de procéder. Le chocolat, c'est vrai que j'aime le chocolat, mais je suis en train de demander à un labo de me faire ce qu'on appelle un dôme de citrate. J'espère qu'ils seront prêts pour Noël pour qu'on puisse manger des chocolats, parce que ce dôme de citrate, il va être fait avec des citrates de magnésium, citrates de potassium, citrates de zinc, etc., mais dans une coquille d'acide citrique qui va être suffisant pour neutraliser les oxalates. Donc moi, j'essaye de trouver des combinaisons, tu vois, pour pouvoir quand même, parce que je suis gourmande comme vous, manger mon chocolat sans me dire… Parce que moi, c'était une sinusite chronique que j'avais, tu comprends ? Donc, quand tu as une sinusite chronique, c'est juste l'enfer. Parce que tu peux même plus penser. Tu respires par la bouche, d'accord ? C'est une horreur, la sinusite chronique. Terminée. Oh, merci, mon Dieu. Parce que j'avais des cycles. J'avais essayé le bleu de méthylène. Ça marchait, puis à un moment donné, ça marchait plus. Tu vois ? C'est comme tout. Quand tu changes d'alimentation, ça marche au début, et après, ça marche plus. Là, ça fait 2 ans et demi, je suis en cétogène. Et il se trouve qu'en cétogène, je faisais encore quelques petites bêtises avec les amandes et les épinards, mais tu manges plus ces aliments sucrés, ces patates douces, tout ça. Moi, tu sais, j'ai un capteur de glucose, là, en permanence, où est-ce qu'il est mon téléphone? Même sous stress, je vais montrer.
Là. Ouais, Vincent l'avait essayé aussi. Ok, t'es bien.
Là, je suis après le déjeuner, hein. J'ai fait une terrine de poulet. On a mangé ça avec des choux-fleurs, un peu de fromage.
T'avais une question, Vincent? J'ai vu le bras se lever, oui. Dis-nous.
Moi, j'ai une question. Vas-y. En fait, on a compris les antinutriments, les oxalates, les lectines, les tanins. C'est des protections pour les végétaux qui peuvent être délétères chez nous. Donc, pour prendre le problème dans sa globalité, on doit diminuer notre exposition sur les aliments qui tiennent ces antinutriments. Est-ce que tu peux nous faire un focus Est-ce que tu peux nous faire un focus sur l'élimination de ces oxalates, ces antinutriments par le corps?
Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est Sally Norton. Hein. Je repars derrière la science, c'est pas moi qui ai inventé ça. Elle donne des tableaux avec les grammages, etc. Et elle explique bien qu'il faut surtout pas arrêter d'un coup. Et d'ailleurs, c'est souvent les gens qui tombe dans le céto, dans le carniceto, là, tu dois connaître, le cétogène carnivore où ils mangent plus du tout de végétaux. Ces gens-là peuvent faire un dumping oxalique et peut-être que cette grippe cétogène dont on parle ou des choses comme ça font partie de ce dumping parce que ton corps veut tellement éliminer les oxalates que ça va bouchonner et tu vas te retrouver avec les problèmes auxquels tu voulais échapper. Si c'est les articulations pour toi, tu vas avoir une crise articulaire. Si c'est les reins, tu vas te faire des coliques néphrétiques. Si c'est la thyroïde, tu vas te taper ou une Hashimoto ou une hypothyroïdie grave. Si c'est les migraines, tu vas te retrouver peut-être avec des migraines. Si tu as une sinusite, ta sinusite, elle peut repartir. Ça m'est arrivé. C'est là où j'ai compris. Oula, pourtant je l'avais mis.
Pas grave.
Moi, voilà. Pourtant, je l'ai débranché de mon téléphone, je crois.
T'inquiète pas, c'est pas grave, Marie. Pas de soucis.
Mais moi, c'est plutôt le processus d'élimination. Donc, là, tu dis que, en fait, les oxalates restent dans notre corps. Mais comment le corps recycle ou élimine? C'est quoi le processus?
Par les urines et par les fesses, mais surtout par les urines, un petit peu par la transpiration. Donc, la sudation est très importante. Dans tous les domaines, hein, que ça soit pour éliminer les PFAS, les métaux lourds, la transpiration. C'est pour ça que le sport est essentiel. Là, j'ai fait du vélo ce matin, je me suis bien couverte pour transpirer, parce que la transpiration est une des voies d'élimination extraordinaire.
Mais tu dis de bien laver après, non? C'est pas, il faut quand même
Le savon noir. Ok. Le savon noir. L'idéal, c'est de barbouiller du savon noir. Moi, je parle de celui d'une petite savonnière qui est dans les Pyrénées, nommée Nature Anne. Parce qu'il peut y avoir de l'hexane dans les savons noirs, il peut y avoir des merdes dedans. Elle, je suis sûre de son truc. Elle fait ça avec l'huile d'olive, machin. Tu te badigeonnes avec du savon noir, d'accord? Et tu vas dans ton sauna. D'abord, c'est doux, c'est agréable. Et là, tu ne vas pas réabsorber toutes les cochonneries qui sortent de ton corps. Ensuite, tu vas prendre ta douche, tu peux revenir au sauna, etc. Et là, c'est vraiment la meilleure élimination qu'il puisse y avoir. Moi, j'ai pas de sauna chez moi, donc j'ai une couverture sauna. J'avais fait d'ailleurs une story là-dessus. Mais je mets pas le savon noir dans ma couverture parce que sinon je la salirais. Mais je me mets dans ces couvertures, je transpire bien, je me mets vite le savon noir en sortant et je prends ma douche avec quoi.
Donc il n'y a pas d'implication du foie dans la détoxication des oxalates, des antinutriments, le foie n'intervient pas.
Il y a dans tous les organes, c'est pour ça qu'il faut éviter le dumping oxalique. Il faut y aller petit à petit. Et tu sens quand tu vas faire un dumping, moi j'avais recommencé un coup de sinusite, hop, tu reprends un peu de chocolat, un peu de framboise. Moi, c'est les framboises. Je cuis les framboises à la vapeur dans ma soupière. Ensuite, je passe les graines, tu vois, parce que les graines, c'est elles qui contiennent beaucoup d'oxalates. Et je me fais une petite gelée avec de l'allulose. L'allulose, c'est un sucre qu'on n'a pas encore en France. On ne trouve que sur un site qui s'appelle iHerb, qui est un site américain. Mais c'est génial parce que ça se travaille comme je suis en keto, tu comprends. Ça se travaille comme le sucre, exactement pareil, sauf que ton foie ne le métabolise pas, ton intestin ne le métabolise pas, ça active ton GLP-1, c'est-à-dire ta satiété. En plus, tu as un postbiotique qui va nourrir tes bactéries intestinales, c'est un truc de dingue. Et ça ne fait monter ni la glycémie ni l'insuline. Pourquoi c'est interdit en France? Je crois qu'on nous interdit beaucoup de choses qui fonctionnent, comme le bleu de méthylène, comme l'allulose, comme la C15 là, dont je voulais vous parler, cette molécule de longévité. D'accord? Ce truc, c'est un truc de dingue, hein. Oh, comment on est passé aussi à côté de ça, mon Dieu.
Bon, c'est qu'on est passé encore à côté de plein de choses. On est quand même ignorant. On sait vraiment rien. Plus t'avances, plus tu sais rien, quoi.
Les Américains ont un téléphone portable 20 ans avant nous. Et tout est comme ça parce qu'ils ont des budgets que nous n'avons pas. Nous, on ne fait que répéter, tourner en rond. Moi, j'en avais marre de tourner en rond. J'en avais marre qu'on me parle d'inflammation et qu'on ne me dise pas à l'origine de mon inflammation. Parce que dans mon origine de l'inflammation, il y a également les antinutriments dont on ne parle pas. Et c'est souvent l'écran qui t'empêche de guérir. C'est-à-dire, t'as beau prendre tous les compléments alimentaires que la médecine fonctionnelle te dit, de faire des petits déjeuners salés, de faire le jaune séquentiel, tatati, tatata, et t'as toujours ton SIBO, d'accord? T'as toujours ton candida, t'as beau faire ton polymorphisme avec ton FUT2, t'es toujours avec ta candidose. Pourquoi tu serais pas passé à côté de certains antinutriments? Et ça, j'aimerais bien que Castronovo, Coudron & Co. en tiennent compte.
Voilà. Je sais pas s'ils nous écouteront ou pas, peut-être.
Mais de toute façon, on espère inviter professeur Castronovo très rapidement.
Et après, quelque chose de nouveau, c'est ridicule, ensuite dangereux, ensuite évident. Ça va passer par ces trois phases. Ridicule. Les Castronovo, c'est ridicule. Ensuite, c'est dangereux. Oh, écoute, faut pas être extrémiste. Anthony Berthoud, il a fait tout un laïus là-dessus, d'accord? Mais finalement, il redit ce que dit Sally Norton. Tout simplement. Sauf qu'il dit, ouais, faut pas exagérer. Mais si! On exagère pour que vous nous entendiez. Pour que vous sachiez que vous avez toujours une fibromyalgie, des douleurs, des torticolis à répétition, plutôt que kiné, compagnie. Si t'as mal au dos, si t'as tes fascias qui sont bloqués, parce que moi, j'ai eu un accident de vélo il y a 2 ans et demi maintenant. 2 ans. Je me suis cassé le fémur, col du fémur et la clavicule.
C'est à cause des oxalates, ça. Hein. Trop d'épinards, là.
Eh ben, là, mon opération s'est bien passée, je me suis bien remise, mais dans mon muscle de la cuisse au-dessus, j'avais des fois comme des coup de poignard, d'accord? Et j'ai vu un fasciathérapeute, machin, ça allait mieux, puis ça revenait, puis quand j'ai resté assise longtemps, ça revenait, etc. Depuis que j'ai géré mes oxalates, maintenant c'est bon, j'ai plus rien. Donc toi, Vincent, si tu veux pas que les gens viennent, tu les mets sur la piste et ils vont dire, mais ce Vincent, il est génial, parce qu'en plus, il nous donne des clés pour qu'on soit autonome.
Non, mais tu vois, qu'est-ce qu'on pourrait faire, donc on évite les oxalates.
Bien sûr, mais faut en tenir compte. Parce que tu as beau dire multifactoriel, tes patients, ils vont bouffer leurs fraises et leurs framboises, même à la crème, s'ils sont en keto, en se disant, je me fais du bien, et qu'ils vont se bourrer d'oxalates en prenant des gâteaux d'amandes, en prenant des salades d'épinards ou des épinards à la crème, etc. C'est sûr que le calcium va éviter à ton corps d'absorber trop d'oxalates. Il y a quand même des boucliers. mon dôme de Sicrate que j'espère avoir avant la fin de l'année. Des produits laitiers, c'est-à-dire des bons fromages au lait cru, Gabory ou autre, faits de bonne manière, du parmesan, des choses comme ça, ça va bloquer un certain nombre d'oxalates. Tout le problème, c'est la quantité. C'est pareil pour les sucres. Tout est une question de dose. Et aujourd'hui, les gens ne sont pas raisonnables. Finalement, un mec qui mange McDo a moins de risque de faire des oxalates qu'un mec qui se met à faire des jubets.
Ouais, mais après, il peut faire 150 kilos et après, bon, les oxalates, tu vois.
Ah ben, il y aura un syndrome métabolique, bien sûr.
Moi, ce que j'ai envie de comprendre, c'est du coup la consommation de certains aliments. On a compris que notre corps allait pouvoir éliminer. Donc du coup, comment on prépare les aliments qui sont riches en oxalates? Est-ce qu'il y a des moyens de préparation, de cuisson ou de conservation qui vont limiter un petit peu l'apport en oxalates?
Alors, si tu cuis à l'eau, tu en élimines à peu près 20-30%, mais tu tues toutes les vitamines et tu précipites tous les séminéraux qui deviennent inassimilables. Si tu cuis à la vapeur, tu élimines en fonction de l'aliment. C'est très aléatoire parce qu'il n'y a pas de data randomisées qui ont été faites. Mais on peut dire qu'il y a une petite élimination de 20% de d'oxalate. Pour les lectines, c'est autre chose. Les lectines étant un autre antinutriment contenu dans toutes les céréales, mais contenu aussi dans les solanacées. Les légumineuses comme les lentilles, les pois chiches, tu les cuis à haute pression ou tu les manges en bocaux, elles ont perdu un grand nombre de leurs lectines. Mais pas d'oxalate, pas de l'oxalate, tu vois. Donc, si tu es raisonnable et que tu varies tes aliments, que tu manges selon les saisons, que tu manges des protéines animales avec des graisses saturées, parce que c'est dans les produits laitiers type beurre Gabory, ghee. Moi, j'ai trouvé un petit éleveur extraordinaire dans le Limousin, mais c'est que du bonheur. Il a des vaches jerseyaises qui boivent à l'eau dans la rivière, elles mangent des pommes, elles mangent des brindilles, elles ont une biodiversité incroyable avec leurs chèvres. Et donc, quand tu sais que les fromages de chèvre au lait cru sont des découpleurs de mitochondries, j'espère que Castro Novo vous en a parlé, c'est génial parce que tu as des produits qui te permettent de lutter contre ces antinutriments, qui nourrissent tes membranes, parce qu'une membrane, une cellule, elle a besoin de membranes stables. On a besoin d'oméga 3 à longue chaîne pour la fluidité, mais on a besoin de membranes stables. Et parmi ces membranes stables, tu as les graisses animales de type ghee, beurre de vache, donc jerseyaise au lait cru, mais aussi l'huile MCT ou la graisse de coco riche donc dans ces acides gras à chaîne moyenne. Tu en as aussi un petit peu dans l'huile d'avocat, mais tu en as surtout dans les huiles, dans les graisses animal, le sein doux, le suif de bœuf contient de la C15. Le C15. Donc les gens, moi je n'ai pas été allaitée, tu trouves ce C15 dans le lait maternel. En quoi c'est dangereux de trouver du C15 dans le lait maternel? Tu peux me dire, il n'y en a pas dans les laits maternisés. Pourquoi le C15 est-il interdit en France? Parce que là-bas, Sally Norton, elle a déposé un brevet. Pas Sally Norton, Stéphanie Van Watson, elle, la molécule de longévité, elle a déposé un brevet où elle a extrait C15. Je suis en train de faire le test, là. Ça fait 8 jours que j'en prends.
Parle-nous du C15. Tu as envie de nous parler du C15. Qu'est-ce que c'est, cet acide gras saturé, là? Dis-nous tout, là.
C'est important parce que ce C15, c'est un acide gras à chaîne, un acide gras saturé à chaîne impaire. Tu as C15, C17, mais c'est le C15 qui est actif. Il stabilise tes membranes. Moi, je vais te lire les trucs qu'elle a dites. Donc, elle est qualifiée d'essentiel et de biohacking fat ultime par Dave Asprey. Je sais pas si tu connais Dave Asprey, il sort un livre prochainement. C'est un mec, un milliardaire, il est biohacker parce que lui, il était obèse, malade et machin. Et il te sort la quintessence des trucs en essayant toutes les huiles, tous les machins. Il te dit, voilà, c'est ça que tu vas prendre, c'est ci, ça, ça. Alors, bien sûr, il est tombé sur la C15. Hein. Et on le trouve dans les produits laitiers entiers, hein, surtout pas les produits laitiers raffinés, allégés. Il renforce les membranes cellulaires en activant des voies comme AMPK, tu sais, c'est l'antidote un peu de tes cellules, et le PIPAR qui améliore la signalisation cellulaire et l'assimilation des minéraux. Donc, tu ne peux pas assimiler tes minéraux, d'accord, si tu n'as pas de graisse saturée. Et parmi ces graisses saturées, tu as tes vitamines liposolubles, la DAKE, comme il dit, D-A-K-E, d'accord ? Et tu ne peux les assimiler qu'avec des graisses saturées et surtout riches en C15. Donc, moi-même, je me suis remise en question par rapport aux produits laitiers. Alors, je reparlerai des produits laitiers après. Je vais te dire comment elle est arrivée à ça, Stéphanie Van Watson. C'est une vétérinaire, tu vois, docteur en médecine vétérinaire et diplômée en santé publique. Et donc, elle a travaillé pour la Navy sur des dauphins. Tu me dis si ça vous intéresse ou pas, hein?
Ouais, bien sûr, vas-y, continue. Alors, et après, tu nous parles d'une molécule qu'on ne pourra pas avoir, si j'ai bien compris, quand même.
Non, si, on peut l'avoir dans les produits
laitiers.
Mais si on est en
carence,
il faudra l'acheter aux États-Unis. Je demandais à des labos si on pouvait l'avoir sous le manteau. J'attends la réponse.
Ok. On attend. Dire...
On l'aura peut-être sous le manteau comme le bleu de méthylène. Je peux t'avoir, hein. Je peux t'avoir des coordonnées si tu veux. Parce qu'il y en a marre. Hein. Alors, elle a étudié les dauphins de la Navy. Tu sais qu'ils utilisent les dauphins pour poser des bombes. Avec leur radar, ils sont capables de signaliser à les ogives qui arrivent de loin. Enfin, ils sont incroyables, les dauphins. Et on a 99% de notre cerveau qui est comme celui des dauphins. Parce que tu vois. Et elle s'est aperçue que les dauphins de la Navy vieillissaient beaucoup plus vite et étaient atteints de syndrome métabolique. Hypertension, foie gras, cholestérol, tous les trucs que nous on a alors qu'ils sont dans l'eau, ils boivent pas, ils fument pas, tu vois.
C'est des dauphins américains aussi. Hein.
Donc, voilà. elle s'est dit, elle a vu d'autres dauphins d'une je sais plus où c'était, peu importe, d'un bassin, peu importe, qui mangeaient certains poissons. Et ceux-là vivaient 20 à 30 ans de plus en bonne santé et étaient atteints beaucoup plus tard, parce qu'il faut que vous sachiez, mes jeunes chéris, que vous allez tous vieillir et que là, comme dirait je ne sais plus Sinclair ou je ne sais plus lequel, la vieillesse est une maladie qu'on peut retarder. Moi, dans ma 70e année, je vous prouve qu'on peut vieillir en bonne santé et que j'espère qu'à 80 ans, j'aurai plus de rides et plus de vilains, mais je serai en bonne santé, d'accord ? Mais nos mitochondries vont vieillir, notre renouvellement cellulaire, il va s'appauvrir, notre absorption de minéraux, de vitamines va s'appauvrir, etc., etc. Donc, le vieillissement et la mort sont des processus naturels. Sauf que on peut retarder l'échéance de cette décrépitude. Et donc, c'est là où elle explique dans son livre tout le cheminement qu'elle a fait pour que ça soit scientifique, tu vois, et pour dire, voilà, pour les 5 critères indispensables d'une molécule de longévité et comment elle est passée, donc la sénescence cellulaire, le dysfonctionnement mitochondrial, l'inflammation chronique, la communication intracellulaire altérée, le dérèglement de la détection des nutriments, altération épigénétique, dysbiose, instabilité génomique, attrition des télomères, perte de la protéase, micro-autophagie désactivée, épuisement des cellules souches, voilà les joyeusetés du vieillissement. Mais elle passe tout en revue pour voir comment on peut trouver qu'un des éléments sont indispensables. Et cet élément, elle l'a trouvé un peu comme des poupées russes en allant tac, 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 tac vers l'essentiel. Et c'est là où elle a isolé le C15, cet acide saturé, cet acide gras saturé à chaîne impair. Ce truc est incroyable. Il est dans la nature, il est dans le lait de la mer, il est dans tous les produits laitiers animaux de bonne qualité. Attention, ils doivent être élevés à l'herbage, finis à l'herbage, avec des races de vaches non rétrocroisées. Parce qu'aujourd'hui, les races de vaches, où ils vont des centilitres de lait, où elles sont complètement hybridées de façon à surproduire, elles surproduisent de mauvaise qualité. C'est pour ça que mes mecs du Limousin, ils s'appellent Gaïama. C'est pas facile à trouver le site. Si tu veux, je te mettrai le ils ont un site depuis 3 jours. Hein. Ils n'en avaient pas avant. C'est des vrais de vrais. Ils traient à la main.
Ah ouais, c'est l'ancienne.
À la main.
Marion, je crois qu'il y a...
Dans le cadre de notre partenariat avec Nutrienco, on est heureux de vous proposer moins 10% sur tout le site avec le code PODCAST10. Lien et code en description. Retour au podcast.
Il y a la main levée de Vincent Marion aussi.
Hein,
je crois.
J'adore, hein, franchement, je salue tes remises en question et ta curiosité, parce que bah tu t'intéresses, non mais vraiment. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que ton conseil principal, c'est d'être raisonnable et d'être dans le bon sens. Mais est-ce que c'est être dans le bon sens de tout remettre en question? Par exemple, je suis sûr que tes produits laitiers, tu les as enlevés une fois dans ta vie et que tu n'as plus pris de produits laitiers pendant 6 mois, 1 an ou plus, et que là, tu les réintègres grâce au C15. Tu vois ce que je veux dire? Comment tu vis cette remise en question? Moi, je suis comme toi, je suis curieux, j'ai envie de changer, j'ai envie d'apprendre. Mais parfois, je me perds aussi parce que je fais un choix et le choix est contredit. Et donc, j'avance, j'ai l'impression que des fois, on se trompe un peu aussi à suivre un peu tout ça, là.
En avançant, normalement, avec l'âge, je devrais me dégrader. Or, je vais de mieux en mieux. Et les petites choses que je n'arrivais pas à régler, le sommeil. J'étais une insomniaque depuis la naissance.
Ça, c'est quand même pas une petite chose. Hein. Ah, c'est quand même la base.
Alors là, j'ai une bague connectée, tu sais, la Bagoura. Et j'arrive à voir quand je peux avoir un sommeil perturbé et quand je l'ai pas. Et je peux avoir 1h30 maintenant de sommeil profond et paradoxal, les deux, alors qu'avant, j'étais à 45 minutes. Des fois, moins, hein. Des fois, mais pas fatiguée, c'est ça qui est bizarre. Mais je suis TDAH. Ça y est, j'ai étiqueté ma maladie depuis la naissance, hein, puisque ma mère comprenait pas pourquoi je passais du coq à l'âne, j'avais pas de mémoire, j'arrivais pas à apprendre par cœur une poésie, elle voulait me faire faire du violon pour créer de l'attention, donc finalement, je suis une vraie TDAH. Bon, je suis toujours assez TDAH, c'est-à-dire je passe du coq à l'âne, ça c'est vrai. Je coupe la parole facilement, ça c'est vrai.
Du coq au dauphin,
ma mémoire, Hein?
Quoi? Bah, c'est du coq au dauphin tout à l'heure, mais.
J'ai pas entendu ce que t'as dit. Oui. je suis hyperactive, c'est vrai. Ça là-dessus. Mais j'arrive mieux à me concentrer. Mon sommeil s'est amélioré. Je peux fermer ma gueule quand même et laisser parler. Tu vois, il y a des choses quand même qui s'améliorent, mais surtout, moi, mon intestin, c'était l'enfer. C'était l'enfer. Et là, il n'y a pas que ça hein, que j'ai réglé, parce que je fais des yaourts hyperbiotiques, je donnerai la recette plus tard, parce que je suis au stade expérimental. Mais c'est un truc de fou encore ça. Mais j'en parle pas encore parce que je veux avoir du recul, tu vois. Donc, mon intestin, personne n'a su me le régler, mais personne, vraiment.
Marion, on va revenir un petit peu sur notre sujet, parce que c'est vrai que là, c'était intéressant, mais on s'est un petit peu éloigné. Et j'aimerais qu'on rentre un peu plus dans le détail des légumineuses, notamment de la pomme de terre, des solanacées. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire justement par rapport à ces aliments? Est-ce qu'on les enlève? Est-ce qu'on a du bon sens, comme dit Vincent? Voilà.
Il s'agit d'être raisonnable.
On module, comment on fait justement? C'est quoi ton conseil pour nos auditeurs? C'est un par semaine, tu vois, une fois par mois? Qu'est-ce qu'on fait?
S'il te plaît,
c'est pour donner des conseils aux gens, pour que ce soit pratique, c'est vrai. C'est
de généralité, puisque tu le sais.
Je sais bien que tout est contextuel. Mais il faut quand même, les gens, ce qu'ils aiment, c'est quand même avoir, je pense que nos auditeurs nous écoutent aussi pour avoir du concret. On leur dit oui, il faut pas manger de ça, il faut faire attention. Mais les gens, ils aiment quand même avoir des repères, tu vois. Ils essayent de se dire, bon, ben là, ce que j'ai compris, je vais le mettre en action après avoir l'épisode. Je sais que les épinards, ben, je vais pas me faire une semaine où je vais bouffer des épinards tous les jours. Je vais commencer à faire attention. Mes amandes, je vais faire attention, on l'a compris. Le chocolat noir, je vais faire attention. Mais qu'est-ce que je fais après des pommes de terre?
On a vu notamment Julien Vénesson
Non, mais est-ce que tu vois, si j'ai un terrain peut-être inflammatoire, est-ce que je fais attention? J'ai un terrain inflammatoire, est-ce que je fais attention ou pas déjà? Est-ce que tu vois, tu me conseillerais de faire ça?
Je te remets dans le bon sens.
Allez, vas-y. Remets-moi.
Écoute ton corps.
Je suis d'accord.
D'accord? Connais-toi toi-même. Il y en a qui n'ont rien à foutre de se connaître.
Mais tu vois, moi, Marion, excuse-moi, je te coupe, mais moi, j'ai la chance. Honnêtement, et pourtant je suis né par césarienne, ma mère m'a jamais allaité, et je touche du bois, j'ai aucun problème. Enfin, j'ai eu un problème digestif la dernière fois quand je suis venu voir Vincent le lendemain, mais bon, ça je sais pas ce qui s'est passé. Mais hormis ça, j'ai jamais mal au ventre, j'ai pas de problème particulier, et je cherche juste à me dire, ben, avoir la meilleure alimentation pour essayer d'être en bonne santé le plus longtemps possible. Voilà, c'est juste ce cadre-là. C'est vrai, quand on a des douleurs, ça peut être facile de se connecter à ces sensations. Et pour quelqu'un comme moi qui n'a pas forcément de problème, qu'est-ce que tu me conseillerais justement?
T'as pas de fatigue, t'as pas de brouillard mental.
Non, ça va.
Au niveau de ta libido, tout va bien. T'as pas de douleur.
Ça va. Un peu des fois le genou qui grince un petit peu peut-être, mais ça c'est.
T'as quel âge?
J'ai 33.
Et voilà.
C'est encore jeune, mais après ça va, c'est rien, je cours quand même, je cours beaucoup. Et là, c'est si vraiment je m'écoute, hein, je dis ça, si vraiment je suis en train de m'écouter, mais
donc, j'exagère. Si tu écoutes Castronovo ou d'autres, tu vas faire ton polymorphisme génétique, comme ça tu vas connaître tes forces et tes faiblesses qui vont, tu sais, la génétique c'est quoi? C'est l'arme, d'accord? Et t'appuies sur la gâchette ou pas, d'accord? Si tu as un polymorphisme comme moi, ou alors les glucides, laisse tomber, c'est l'enfer, j'ai aucune protection antioxydante. Si ce que j'ai fait, je me crame au soleil comme j'ai fait jusqu'à 60 ans, eh ben tu vas te rider plus vite parce que t'as pas de protection antioxydante.
Bien sûr.
Tac, tu t'appuies sur la gâchette. D'accord? Donc si tu as un mode de vie McDo machin, bah, et que tu as génétiquement une fragilité au foie ou compagnie, eh ben tu vas appuyer sur la gâchette et tu vas commencer à avoir des problèmes en vieillissant. Bon, il y en a d'autres qui ont pas de chance, ils ont des problèmes très tôt. Il y a même des jeunes qui ont des cancers. Il y a des gamins à 10 ans, ils ont déjà le foie gras. Hein. Il y en a, moi j'ai fait beaucoup de consultations il y a 25 ans. J'avais des mères qui me disaient, mais je ne sais pas comment nourrir mon enfant, il ne tolère rien. Tu as des enfants en dysbiose, tu as les autistes, j'ai connu des autistes. Tu as beaucoup, beaucoup de grands malades, très jeunes. Donc, tu ne peux pas donner les mêmes directives pour tout le monde.
Oui, bien sûr.
Connais-toi toi-même, écoute ton corps. T'as faim, tu manges, t'as pas faim, tu manges pas.
Ce que je veux pas, Marion, excuse-moi de t'interrompre, c'est que les gens, avec ce podcast, ils se disent, ah oui, ben, je vais plus manger de solanacées, j'ai pas mangé de pommes de terre, je vais arrêter les épinards, voilà. C'est pour ça que je te relance dessus pour avoir, voilà, une version un peu plus douce et apaise-nous un petit peu.
Alors, on a des boussoles. Moi, j'ai la boussole de mon capteur de glucose et j'ai même maintenant, je teste depuis une semaine, le capteur de cétose pour voir, pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Ce serait bien que les jeunes, même les jeunes, mettent un capteur de glucose. Ça dure 15 jours, ça s'achète en pharmacie. Ça s'appelle Freestyle Libre 2+ maintenant, il dure 15 jours. Tu le claques avec ton smartphone et puis tu vois ta courbe, tu vois comment tu réagis à ta pomme de terre, à tes fraises, à ta glace à la vanille, etc. Si tu montes dans les tours, oh putain, je fais un pic, machin, tu vois comment tu descends. Parce qu'on peut être résistant à l'insuline très tôt. L'âge va accélérer les choses, mais très tôt, il y a beaucoup de gens résistants à l'insuline. Tu as vu la pandémie de diabète qu'il y a, hein? Et on peut être diabétique maigre, hein? Donc ça, l'insuline à jeun, la glycémie à jeun et l'HbA1c, c'est vraiment des analyses à faire, l'hémoglobine glyquée, même si tu n'as que 33 ans. Ça, tu verras comment ton organisme, si tu es à 4,9 à ton âge en hémoglobine glyquée, tout va bien. Mais si tu as une insuline à jeun qui va, continue ce que tu faisais. Mais, tu comprends, il y a des maladies silencieuses. L'histoire des glucides, c'est quelque chose de très individualisé. Le même repas, moi je m'amuse des fois avec des copains, alors piquer le sang pour voir une heure après où chacun en est. Et il y avait la femme et son mari, la femme était montée à 210 pour le même repas, lui il était à 110. Donc on n'est pas égaux. Donc comment veux-tu que je te dise, mange des patates ou pas, puisque je ne suis pas égale en termes de glucides. Et là, je te parle même pas des lectines, des solanacées, etc. Mon compagnon, il mange des frites à chaque fois qu'il va au restaurant. Il mange comme moi, mais il se tape son bol de frites. Il adore ça. Ça ne t'empêche pas de manger un peu de pommes de terre de temps en temps. Si, quand tu as mangé des pommes de terre, tu es fatigué le lendemain ou tu ballonnes, tu dis, tiens, hein, peut-être que faudrait que j'aille plus mollo. Mais si tu n'as rien, bah, tu continues, tu vas le dépenser. Mais si tu as un capteur, tu vois un peu comment ton corps réagit parce que c'est une boussole. C'est comme si tu conduisais sans savoir à quelle vitesse tu roules. Tu es dans le vague, mais il y a des radars tout le long de la route. Mais les radars, tu vas les passer tout le temps parce que tu sais pas combien tu roules.
Mais là, tu parles de la glycémie, tu parles d'un autre problème.
Moi, je n'arrive pas à délier les glucides, les oxalates, parce que tout ça, ça te rend résistant à l'insuline, tu comprends?
Okay.
Donc, la résistance à l'insuline, c'est pas que le sucre. C'est aussi les huiles raffinées, c'est aussi l'essence que tu mets dans ta voiture, c'est aussi les perturbateurs endocriniens que tu mets sur ta peau, que tu renifles quand tu fais ton plein d'essence. Donc, il y a tellement de combinaisons de choses que c'est compliqué pour moi de donner une directive à tout le monde. La directive que je donne, c'est manger de tout, d'accord? Mais aujourd'hui, pour moi, le blé, c'est un frankenblé, c'est vraiment, vraiment, si tu veux manger du pain, ça doit être comme un bonbon. exceptionnel. Tu te tapes ton croissant ou ton truc, tu te fais un grand plaisir, mais tu ne prends pas à l'habitude. Le problème aujourd'hui, depuis 12 000 ans, on a pris l'habitude de manger du pain, en Occident en tout cas, et surtout, le pain n'est plus le pain d'hier. Tu peux prendre le pain pané vivo qui est fait avec des blés anciens ou levain naturel. Le levain naturel va métaboliser un certain nombre d'acides phytiques et de lectines. Celui-là est pas mal si tu n'as pas de problème de glycémie, celui-là tu peux le manger. Mais les habitudes, il n'y a rien de pire. Et parmi les habitudes, le petit déjeuner, c'est le pire des repas parce qu'on mange toujours la même chose. Moi, je n'ai jamais un repas pareil. Ça fait plusieurs jours que je ne mange pas le matin parce que je n'ai pas faim, je ne mange pas. Voilà.
Alors vas-y, matin, là, c'est intéressant parce que c'est vrai
des
que
fois,
moi,
j'ai mangé du fromage de chèvre.
Marion, c'est intéressant ce que tu dis là, parce que quand tu essayes de maîtriser un petit peu ce que tu manges, par exemple le petit déjeuner, eh ben tu peux vite avoir le même petit déjeuner. Toi, tu dis que tu as toujours une diversité dans ce que tu manges le matin.
Ah oui, oui.
Explique-nous jamais un peu comment tu fonctionnes, chose. Tu vois.
Il y a des moments où je ne mange pas, il y a des moments où je vais me faire un café gras, c'est-à-dire un café avec de l'huile MCT dedans que je vais mixer. Il y a des fois où j'ai mangé des œufs, il y a des fois où j'ai mangé... Un caillé de chèvre frais au lait cru et je mets un peu d'huile MCT dedans, un peu d'allulose, c'est trop, trop bon. Et je me mets quelques noix de macadamia ou des noix de pécan. Tu vois, tu mets 3-4 noix de pécan, c'est pas grave. Hein. Tu vas pas passer la dose. Et voilà, ce sera mon petit déjeuner. J'aime bien ma petite gelée de framboise. Donc des fois, je prends un yaourt type Cafilus ou hyperbiotique avec ma petite gelée de framboise ou à l'allulose. Tu vois, c'est très varié. J'ai pas envie de sardines le matin, hein, franchement. Mais des fois, si j'ai des blancs de poulet, parce que ça m'arrive d'en faire à l'avance, je pourrais me manger un blanc de poulet avec de l'huile d'olive. Hein, ça me dérange pas. L'été, j'aime bien manger ces trucs-là. J'adore l'ail, donc je me fous de l'ail partout. L'aioli, pour moi, c'est mon repas de prince. Donc dans l'aioli, c'est vrai, je mangerai pas les pommes de terre. Je mangerai un peu de la carotte, pas beaucoup, parce que je réagis très très fort aux glucides, moi.
Et
le chou-fleur, le brocoli, le fenouil, l'oignon, l'ail.
Et juste pour revenir à un autre débat, est-ce qu'il faut faire attention au cru aussi, genre peut-être ou pas spécialement
gens.
On peut y aller.
Ça dépend des gens. Ça dépend ce que tu manges en cru. Moi, j'adore les salades, j'adore les endives. J'aime bien le fenouil cru parce qu'il est très rafraîchissant. Donc ça dépend des gens. Hein. Les carottes crues, ça va. Il faut pas les manger en trop grande quantité. À cause des oxalates, alors je sais plus combien elles ont, les carottes.
Tu pourrais les nous carottes, dire carottes et tomates, parce que tomates aussi, c'est...
Pour 70 grammes, tu as 15, donc ça va, quoi.
Ok. Et les tomates
Les tomates, elles sont plus riches, mais il faut vraiment en manger. Alors, tomates...
Parce qu'on a vite fait de manger une tomate, voire même deux, hein, l'été, parfois, par jour.
Alors, moi, pour manger les tomates, je vous conseille de enlever les pépins et la peau, parce que c'est là qu'il y a beaucoup de lectine. Et si tu en manges une tomate avec une bonne huile d'olive, il n'y a pas de souci, tu vois.
Surtout une salade de tomates émondées, c'est extraordinaire. Moi, j'ai une question sur l'élevage de nos légumes.
Est-ce qu'il y a une salade de tomates émondées et tu évites les légumes riches en oxalate à côté, comme ça, tu tapes ta salade de tomates, mais tu fais gaffe à ne pas prendre d'amandes ou autre chose comme ça à côté.
Est-ce que la teneur en oxalate, elle va différer en fonction de la culture du légume? Par exemple, ma tomate prise chez Carrefour, chez le maraîcher ou sur du bio? Est-ce qu'il y a une différence?
Il n'y a pas suffisamment de data pour te répondre. Sally Norton va sortir un livre de data l'année prochaine. Je crois au printemps de l'année prochaine, il y aura tous les data. Il y a tout, avec les doses, etc., les origines. Mais ça n'est pas assez exploré. Tu sais pourquoi? Parce que ça ne rapporte pas d'argent. Il n'y a pas de médicaments à la clé. Il y a juste, fais gaffe quand tu manges une patate douce. Fais gaffe. Si tu as un bon microbiote parce que tu es né dans les îles et que ta maman t'a allaité jusqu'à l'âge de 3 ans, mais quelle chance tu as! Tu vas pouvoir virer tes oxalates sans problème parce que ton microbiote depuis des générations est habitué à ça. Puis là-bas, on allait tes enfants parce que ça coûte trop cher les laits maternisés. C'est les maternisés de merde où ils mettent des antidiarrhéiques dedans et où il n'y a pas de C15. Et il n'y avait même pas d'acide gras essentiel à l'époque. Il n'y avait même pas de taurine. Petit à petit, ils rajoutent des trucs parce qu'ils disent « Oh merde, on a loupé ça ». Tu vas voir, si je fais un phénomène comme j'arrive à faire sur les oxalates avec la C15, tu vas voir que dans les laits maternisés, d'ici peu d'années, il va y en avoir dedans.
Et est-ce que pour conclure un petit peu ce podcast, on pourrait parler un petit peu de l'avantage quand même de manger des légumes pour nos auditeurs? Est-ce que pour toi, il y en a un? Ou est-ce que les légumes... Vas-y, dis-nous tout ça.
Les légumes, je dirais, te donnent à fibres solubles, hein, parce que les insolubles, c'est beaucoup plus compliqué. Comme dirait Castro Nouveau, on n'est pas des vaches et on n'a pas de cellulase. Hein. Donc, les fibres solubles, c'est nourrir tes bactéries avec les polyphénols. Et surtout, tu sais que de quoi se nourrissent tes bactéries intestinales?
Les fibres.
Quelle est leur principale nourriture? Hein?
C'est les fibres.
Les fibres.
Le butyrate. Un peu de propionate et d'acétate, mais c'est surtout les acides gras à chaîne courte. Tes bactéries intestinales, elles veulent du butyrate. C'est la seule chose qu'elles veulent manger. Et le problème de ce butyrate, c'est qu'on a diabolisé les graisses saturées. Le beurre contient du butyrate. Les produits laitiers contiennent du butyrate. Ils découpent tes mitochondries. Mais heureusement, quand même, les polyphénols te permettent de fabriquer du butyrate. Donc, le butyrate, on est appauvri en butyrate. Ce qui fait que tes bactéries, comme elles n'ont pas assez à manger, et que les lectines et les oxalates, ils te percent ton intestin. La grande pandémie aujourd'hui, c'est quoi? Le leaky gut, la perméabilité intestinale. Et vas-y que je te passe dans le flux sanguin, et là, c'est l'inflammation. Et c'est le bordel.
Et si justement j'ai le ventre qui gonfle le lendemain, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaie d'être progressif, d'adapter un petit peu mon alimentation et d'augmenter? Ou est-ce qu'au contraire, je laisse carrément tomber? Je sais pas, peut-être je supporte pas les pois chiches, le lendemain je me sens... Ouais, j'arrête, j'en prends pas? Ou est-ce qu'on essaye justement d'avoir une progressivité et d'adapter un petit peu notre corps à tous les récents?
Pour moi, l'idéal, c'est de faire un sevrage au départ des céréales et des légumineuses. Alors, je sais que ça fait pas, c'est pas bon pour le régime méditerranéen dont tout le monde s'en sens, alors que le régime méditerranéen, pour moi, c'est n'importe quoi. Et si je continuais le régime méditerranéen, je serais obèse et diabétique. Ça, et puis un crétois, un espagnol, un italien, un français, ça n'a rien à voir. Bref. Et puis eux, ils sont dans la montagne, ils bouffent du fromage de chèvre, ils bouffent leurs moutons, hein, ils bouffent un peu de légumes, et un peu de poisson, mais ils mangent pas leurs légumineuses à fond de la caisse, c'est pas vrai, leurs céréales à fond de la caisse. C'était ce que le régime méditerranéen, c'était il y a 200 ans. C'est terminé, le régime méditerranéen. Les seuls qui ont encore un bon microbiote, c'est la Sardaigne, parce qu'ils mangent beaucoup de produits laitiers de leur chèvre et de leur brebis, bourrés de C15. Tout ça, c'est étudié. Hein. Donc, si les lentilles et les pois chiches ne te font pas de bien, ne mange plus. C'est pas compliqué quand même, hein. Tu manges une bonne viande issue d'herbage à l'herbage, type Feroz Food. Tu manges un bon beurre, des bons fromages, des bons yaourts faits avec des vaches élevées à l'herbage aussi dans les bonnes conditions. Tu manges des œufs bleu blanc cœur. Tu manges des petits poissons, des coquillages quand tu connais un peu la provenance. Ça fait quand même pas mal à manger. Les fruits à la saison, il y a des saisons où il n'y en a plus. Les légumes, tu évites ceux qui sont trop riches en oxalates, mais si tu en manges de temps en temps, c'est pas grave si t'es en bonne santé. Les pommes de terre, tu vas pas en manger tous les jours. Si t'as envie de te taper une plâtrée de pommes de terre ou vapeur ou en frites une fois par semaine, c'est pas grave. Mais si tu es varié, t'as moins de risques. Aujourd'hui, on ne varie pas, on mange toujours la même chose. Tu vas demander à tes gens, à tes clients, de faire une anamnèse, de noter sur pendant une semaine, tout ce qu'ils mangent, tu vas voir que c'est toujours la même chose qui revient.
Mais l'habitant en Sardaigne, là, tu penses qu'il a vraiment une diversité dans ce qu'il mange sur sa semaine? Tu penses qu'il y a vraiment de diversité que...
Il a peut-être encore, mais c'est surtout dans mon avis. C'est surtout chez les vieux. Les jeunes, ils vont chez McDo.
Oui, mais c'est chez les vieux.
Okinawa, c'est mort.
Les anciens...
Ils ont falsifié les dates de naissance.
Je sais pas si c'est sûr, tu vois, qu'il y a une vraie diversité chez les Sardes. Honnêtement, est-ce que vraiment ils vont à chaque fois manger différemment à chaque repas? C'est pas sûr. Hein. Tu vois, mes anciens, les souvenirs que j'ai, mes grands-parents, ils mangeaient trois jours le même repas, tu vois, genre.
Ils mangeaient quoi?
Non, mais bien sûr, ils mangeaient avec bon sens, mais tu vois, la diversité qu'on prône aussi, est-ce que réellement c'est une règle à suivre, tu vois?
Ils mangeaient de la viande? Ils mangeaient les légumes qu'il y avait dans le potager. Ils mangeaient leur fromage de chèvre. Ils avaient leur huile d'olive.
Oui, ce qui change, c'est surtout la qualité, peut-être. C'est plus la qualité des produits qui a évolué ces 40 dernières années, parce que je pense que même la charcuterie que mangeaient nos grands-parents versus la charcuterie que nous, on mange notamment maintenant, ça n'a rien à voir. Pareil pour la viande, pareil pour les produits laitiers. Est-ce que, comme dit Vincent, le problème, ce serait pas plus la qualité que vraiment la diversification, même si on sait bien sûr qu'avoir une grosse, manger varié, bien sûr, c'est important. Mais est-ce que la base, c'est quand même pas de manger des produits de bonne qualité?
La qualité, c'est primordial. Et je crois que tu as invité David Nicolas.
Oui, on le recevra prochainement pour parler
Il
de l'huile
va
d'olive, justement.
Sponsorise le
travailler
podcast,
son huile
Marion.
d'olive. Génial. Parfait. Alors, son huile d'olive, elle est à 0,2% d'acidité. Et j'ai eu la mauvaise, désagréable vision de voir que même dans les bio, ils mettent pas le taux d'acidité, alors qu'avant, c'était obligatoire, ils l'ont enlevé. Tu te rends compte? Une huile d'olive bourrée de polyphénol actif, elle doit être à 0,2% ou moins d'acidité. Lui, il le marque sur ses bouteilles, alors que même en bio, il ne le marque plus du tout, hein. Ça, c'est un vrai scandale. Ensuite, il va nous développer notre avis, David, parce que on lui a demandé, avec Nesseden, avec qui je fais mes podcasts, mes lives, Gundry a soulevé un énorme problème sur la viande de mammifère. D'accord? Même élevée à l'herbage. C'est-à-dire que nous, on a des acides au niveau de nos, et ça, pareil, Castronovo, il t'en parle pas, hein. Au niveau de nos
Et il
entérocytes,
parle
au
de
niveau
tellement de choses que quand même, s'il nous écoute, professeur Castronovo, merci pour tout ce que vous apportez.
Oui, non, mais c'est très
Et
fort faire cette
l'humilité
base.
qu'il a,
Il
c'est
faut aller
extraordinaire,
plus
mais...
loin maintenant. Oui. Mais quand j'ai parlé des oxalates, tu dis, oh Marion, moi, les gens qui font des études systémiques, machin, moi, je veux qu'ils s'y mettent, tu comprends? Parce qu'il est très intelligent, il est très érudit, et il faut qu'il s'actualise sur les oxalates, sur la C15 et sur cet acide qui s'appelle le New5GC. Je le dis en anglais parce que je les écoute en anglais. Le New, NEU5GC. Nous, sur notre intestin, on a le New5AC, NE5AC. Le poulet est NE5AC, surtout qu'il y a la vapeur en plus. Et on arrive à neutraliser un petit peu ce New5GC avec ma cuisson à la vapeur. Mais avec une certaine fermentation, avec certaines bactéries, on lui a donné le protocole. Il va le faire. Il va nous sortir des viandes dont on a neutralisé le New5GC. Ça, c'est génial. Et il n'y a que lui qui saura le faire, hein, parce qu'on lui a donné le truc et il va le faire.
Pour
Et
conclure, Marion.
ça, c'est formidable parce que... Mais c'est là où on comprend pourquoi ils ont diabolisé la viande rouge. Parce que chez certains, les trop mangeurs de viande rouge, qui en plus mangent des glucides, peuvent évoluer en cancer. Tu comprends?
Et après, c'est aussi pas la même
Et
viande
là,
rouge
si tu
qu'avant.
neutralises le New5GC, il n'y a plus de problème avec la viande rouge.
Ok.
Marion, dis-nous
On en parlera peut-être
pour
avec lui à
conclure.
l'occasion.
Ah oui,
Pour
c'est très
conclure,
bien.
est-ce que tu peux nous donner un top 3 sur les oxalates antinutriments? Quels sont le focus, quelles sont les attentions que je dois avoir en top 3 sur les antinutriments et oxalates? Qu'est-ce que je mange pas? Qu'est-ce que je fais?
Si tu as une maladie que tu n'arrives pas à guérir, des douleurs que tu n'arrives pas à gérer, malgré le fait d'avoir changé d'alimentation, de voir l'ostéopathe toutes les 5 minutes, mais tu arrives avec une chronicité de problèmes, c'est peut-être l'écran qui t'empêche de guérir. Donc, tu vas lire le livre de Sally Norton, tu vas regarder ton assiette, ce que tu manges et la répétition avec laquelle tu la manges, et tu vas peut-être un petit peu évoluer pendant quelques semaines, et tu vas regarder ce qui se passe. C'est ça les oxalates. C'est ça s'accumule dans les tissus et ça passe sous le radar parce que c'est asymptomatique en général. Asymptomatique, c'est-à-dire t'as pas de symptômes peut-être pendant des décennies. Et puis à un moment donné où tu vieillis, où t'as un accident, où t'as un choc émotionnel, où t'as une baisse immunitaire, et là ça sort. Et ça sort sous arthrose, polyarthrite, fibromyalgie, migraine, problèmes neurologiques aussi, problèmes neurologiques, problèmes rénaux bien entendu, problèmes de foie, problèmes cardiaques. Et tu essayes de tout faire bien, mais tu t'en sors pas. Bah, pense-y, parce que c'est quelque chose dont on doit tenir compte.
C'était bien. Est-ce que tu as peut-être un dernier conseil aussi, parce qu'on a parlé des oxalates, et est-ce qu'il y a aussi un autre antinutriment que tu aimerais mettre en avant pour conclure?
Les lectines, donc les oxalates, c'est les deux antinutriments.
Dans
Je sors
lectine,
un
tu peux rappeler lectine où on les retrouve pour nos auditeurs peut-être?
livre. Lectine, c'est pareil. Tous les végétaux qui veulent pas qu'on me les mange, là où il y en a le plus, c'est dans les céréales, puisque les céréales, elles peuvent même pas se protéger comme le fruit. Le fruit, le noyau se protège, donc le noyau ne va pas être attaqué par l'animal, tu comprends? Sauf quand ils avalent les pépins, ça s'est étudié pour qu'il aille loin de l'arbre pour pouvoir semer au soleil. Donc, ces lectines sont des antinutriments pour rendre malades certaines bestioles, pour les empêcher de tout manger. Donc, il y en a surtout dans les céréales. Certaines pseudo-céréales en contiennent moins, alors qu'elles contiennent des oxalates. Tu vois, il y a toujours le pendant, c'est bizarre. Dans les légumineuses, mais on peut les travailler. Quand tu fais fermenter, la fermentation arrive à neutraliser une grande partie des lectines, sauf que par rapport aux oxalates qui s'accumulent dans l'organisme, les lectines, eux, ils te font un trou dans l'intestin, mais ils s'en vont. Okay. Tu vois, ils font les dégâts, mais ils ne s'accumulent pas. Ils te défoncent l'intestin et ils s'en vont. Les oxalates, ils restent, ils s'accumulent.
C'est un coup de fusil, en fait.
Donc, c'est des vilains, un petit. Hein. Donc, si, je vais te dire, si on mange viande, poisson, œufs, fromage et un certain nombre de végétaux, t'as de quoi manger, hein. T'as de quoi manger. Le problème, c'est les exclusions. Si tu veux être que vegan, tu vas manger que des légumineuses et des légumes, et des fruits, et des oléagineux. Si t'es végétarien, pareil. D'accord? Sauf que tu vas peut-être y insérer les œufs. Mais attends, on n'a qu'un estomac. T'imagines? Tout ce qu'on peut varier entre les poissons, les coquillages, toutes les variétés de viande, toutes les variétés de produits laitiers de bonne qualité. Et c'est sûr que la qualité va être très importante. Mais comme, quand tu manges de la qualité, tu arrives mieux à satiété, parce que ton cerveau, il a besoin d'être nourri lui aussi. Hein. Il te dit, ah oh, c'est bon, moi j'ai ce qu'il faut. Et là, c'est qu'un, t'amène une satiété. Moi j'ai ce qu'il faut, t'as pas besoin de manger plus. Alors quand tu manges du pain, des choses sucrées, t'as faim tout le temps. Tu vas à la machine à café à 10h, t'as besoin d'un goûter, enfin, tu n'arrêtes pas. Alors que là, quand t'as plus faim, quand tu manges bien les bonnes graisses, avec une viande bien grasse, tu manges le gras, le poulet, moi je le cuis à la vapeur, je mange la peau, c'est bourré de collagène, c'est bourré de ben, y a de la C15 aussi dedans, etc. Donc c'est génial. Donc c'est facile de bien se nourrir, sauf qu'on nous a perdu avec ces religions alimentaires. Là, moi je te parle pas de religion, je te parle de variété. Mais en faisant attention à ton polymorphie génétique, comment tu gères les glucides, comment tu mastiques. Ça, je dois dire que le professeur Castronovo est génial pour ça. Il t'explique bien la mastication, t'es plié en deux de rire. Et ça, tu l'oublieras jamais, quoi. Donc, la mastication, c'est quelque chose à ne pas oublier. Mais il faut avoir une bonne occlusion. Là, je vais inviter un dentiste à parler parce que c'est trop important, l'occlusion. Parce que ça peut activer une substance qui va être pro-inflammatoire, etc. Bon, ça, c'est un autre volet.
Bien sûr. Ben, merci pour cette précision. Après, c'est vrai que l'alimentation et la nutrition, pour certains, c'est plus que de la santé, il y a aussi derrière des convictions personnelles, écologiques. Et nous, c'est vrai que dans le podcast, on est vraiment focus santé. On parle bien sûr des différents paramètres. Mais je dis ça parce qu'on a eu des retours un peu négatifs par rapport à Jack sur le podcast sur la viande notamment. Mais c'est des gens qui commandent des extraits. Mais en fait, non, nous, on est vraiment focus sur la santé. On dit justement qu'il y a tout un écosystème derrière. Chacun a ses convictions. Mais voilà, nous, notre combat, c'est la santé. Bien sûr qu'on est sensibilisé pour d'autres causes. Mais on essaye de vous faire comprendre
la musculature, ce focus. Tu vois mes muscles là.
Bien sûr.
La musculature. Très important, c'est ton passeport anti-diabète, ton passeport longévité, la musculature. Donc, faut jusqu'à la fin de tes jours, faut faire un peu de renforcement musculaire. Moi, je fais des pompes, des squats, du vélo. Mais j'en fais pas outrancièrement, hein, franchement. Je fais 20 squats par-ci, 20 squats par-là. Les pompes, j'arrive à maxi 10, si je peux dire, c'est dur pour moi. Hein.
Ouais, c'est pas mal déjà si t'arrives à faire 10 pompes sur les genoux, j'ai entendu. Sur les genoux, j'ai entendu.
Non, tendu comme les militaires.
Ah ouais, on veut voir la preuve quand même, Marion. Ben, en tout cas, je ne sais pas si tu as une dernière question, Vincent, pour conclure le podcast.
Non, c'était très bien. Et puis nous, à 1000%, on essaye de comprendre, on a plusieurs avis. Et l'idée, ce n'est pas d'avoir une vérité. La vraie vérité, c'est qu'on ne sait rien. C'est de personnaliser et l'exploration personnelle de sa nutrition, de son sommeil, comme tu l'as dit, Marion, de son activité physique. C'est ça, hein. Nous, on essaie de vous amener, d'enrichir un peu le débat sur votre propre exploration. Et je pense que là, c'est le bon sens dont tu parlais, Marion. On te remercie, en tout cas. C'était top.
C'est votre corps qui dira oui, c'est votre corps. Donc, s'il y a des douleurs et que vous avez trouvé le chemin pour plus en avoir, pour bien digérer, avoir la patate et bien dormir, qu'est-ce qu'on demande de plus?
Bien sûr, ben on finira sur ces mots de bon sens. Ben, un grand merci Marion. Ça. Et n'oubliez pas toujours hein, un petit commentaire. On mettra la chaîne de Marion et les liens. T'as pas une petite, il y a une petite recette que tu nous as dit, mais tu veux pas la dévoiler, c'est pas grave. Je sais pas, tu nous as parlé d'un petit yaourt, mais je crois qu'elle est pas encore officielle. Il y en a trop. Il y avait un chocolat blanc aussi que tu nous as pas dévoilé, apparemment.
Oui, parce que je mets du beurre de cacao. Mais c'est cher, le beurre de cacao.
Ok. Bon,
c'est pas. Il y a le bleu de méthylène. Merci à tous. Il y a le bleu de méthylène, là. On n'a pas oublié ça.
Mon petit rocher coco, tu sais, tu prends du blanc d'œuf. Je prends deux blancs d'œufs, 40 grammes d'allulose. Faut acheter de l'allulose. Hein. Ouais. Tu fais monter tes blancs en neige. Tu rajoutes ton allulose. D'accord? Et tu mets 150 grammes de fibres de coco, là, pas de la farine de coco, de la poudre, là, tu sais, le coco râpé.
Ok.
Tu mélanges tout ça, tu formes des petites boules, tu mets sur une plaque avec du papier sulfurisé, tu le cuis à 110 degrés. Alors, si tu veux les cuire pour qu'elles soient bien sèches, tu cuis à 110 degrés une demi-heure, sinon, tu cuis à 150, 10 minutes.
Okay.
Ça fait une petite saveur sucrée qui n'est pas du sucre et une petite gourmandise. Moi, j'adore faire ça, c'est super bon.
Allez, ben merci. Merci pour ce dernier conseil, Marion. Au revoir à tous les deux et à très vite pour un nouvel épisode. Merci de nous avoir écoutés.
Salut.
À bientôt.